When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Frissonner de plaisir en lisant, transi par des mots couchés sur le papier. Est-ce qu'on peut prendre plaisir au livre érotique, vraiment sentir dans sa chair l'effet que produisent ces mots? Est-ce qu'on peut prendre plaisir à ces livres si l'on n'a jamais vécu soi-même d'expérience sexuelle? Les personnes qui écrivent des ouvrages érotiques, des écrivains, des philosophes sont-elles forcément des obsédés sexuels? Bonjour, je suis Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Tout s'explique et on parle de ces questions de littérature avec...
Je suis Camille Moreau, je suis docteure en philosophie, précisément en philosophie de l'art et je me suis spécialisée sur les questions d'usage des œuvres d'art dans la vie privée et plus particulièrement sur l'usage de la littérature, qui est un art aussi comme les autres, dans la vie privée, et notamment autour des questions d'érotisme et d'expérience sexuelle. Donc les rapports entre les deux, c'est ma spécialité.
Et vous avez écrit « Lire, écrire, jouir quand le texte se fait chair » aux éditions La Musardine. Pour résumer à très grands traits, c'est un essai littéraire et philosophique sur le texte, sur l'écriture érotique, et que, si je résume encore là aussi à très grands traits, le texte accompagne l'expérience érotique, mais aussi ce texte, il a la capacité de susciter cette expérience érotique, voire de la constituer. Alors, est-ce que lire, déjà, c'est un acte érotique ?
Bien sûr, pour moi, c'est évident. C'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de démontrer dans mon essai, c'est que les pratiques de lecture peuvent avoir un effet tout aussi fort que les expériences sexuelles réelles qu'on peut faire dans la réalité. Évidemment, pour moi, lire ou écrire, ça peut constituer en soi une expérience sexuelle, en tout cas une expérience érotique, ça c'est sûr.
Donc il n'y a pas besoin de la chair pour vivre l'expérience, la relation sexuelle, même solitaire.
Non, exactement. Quand on se penche un peu sur l'expérience érotique en elle-même, on réalise rapidement que le cerveau, la pensée, est au cœur de cette expérience et même plus prégnant parfois que le corps lui-même. Donc, on pourrait imaginer parfaitement des expériences sexuelles qui soient entièrement mentales. Il y a d'ailleurs des pratiques qui sont autour de ça, de cette prégnance de l'esprit et du mot, sans pour autant avoir du toucher, des caresses ou ce genre de choses. Et la lecture et l'expérience érotique livresque, on va dire, met vraiment ça en avant.
On a eu déjà des podcasts où on avait un des intervenants qui nous disait demain, donc demain dans un futur proche, il n'y aura plus de relations sexuelles puisque tout sera dématérialisé. Est-ce que l'expérience érotique par l'écriture, c'est quelque chose qui est dématérialisé et il n'y aura plus, peut-être dans un futur prochain, alors plus ou moins lointain, la rencontre des corps?
Eh bien non, car si d'une part, effectivement, comme je viens de le dire, la littérature érotique peut constituer en soi une expérience sexuelle, elle est aussi une aide pour l'expérience sexuelle réelle. C'est-à-dire que très souvent, les lecteurs de littérature érotique vont avoir envie de passer à l'acte à la suite d'une lecture d'une scène. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont témoigné de ça, c'est-à-dire qu'ils ont lu un roman ou une nouvelle érotique et ils se sont rendus compte à la lecture qu'ils avaient tel ou tel fantasme et ça les a poussés à le réaliser.
Est-ce qu'il y a d'ailleurs un lien entre l'amour des livres et la liberté sexuelle ?
Oui, pour moi, véritablement, parce que toute personne qui prend en charge sa sexualité, tout d'abord à un point de vue intellectuel, on va dire, en se posant des questions, en se demandant pourquoi est-ce que les choses sont de telle manière, forcément va acquérir petit à petit une plus grande autonomie, on va dire, par rapport à la société, par exemple, par rapport aux tabous, et aura forcément, au bout d'un moment, une plus grande liberté. C'est en tout cas ce que j'ai souvent constaté en rencontrant des intellectuels qui s'intéressent au sujet. C'est souvent des gens qui ont une pratique, on va dire, érotique, plus libérée en tout cas des normes et des tabous, ça c'est sûr.
Quand on écrit de la littérature, le lecteur, la lectrice n'apprécie pas forcément le style de l'auteur, de l'autrice. Quand on écrit de la littérature érotique, ma petite expérience, qui n'a aucune valeur scientifique, c'est que la plupart des livres dits New Romance ou dits Harlequin sur les scènes érotiques me passent complètement au-dessus de la tête. Comment écrire et peut-on écrire la littérature érotique de manière universelle, qui pourrait toucher tout le monde?
Aucun texte érotique ne prétend à l'universalité, tout simplement, et même plus précisément parce que les pratiques érotiques de chacun sont tellement différentes qu'il y aura forcément des choses qui vont dégoûter certains lecteurs ou qui vont les exciter. Il peut pas y avoir de texte érotique universellement conçu pour exciter tout le monde. C'est d'ailleurs l'erreur que font en général les éditeurs des collections Harlequin ou New Romance, c'est qu'ils veulent vendre le plus possible de livres et donc du coup, ils demandent à leurs auteurs d'utiliser des scènes et des fantasmes qu'ils pensent être partagés par la plupart des gens. Sauf que, en règle générale, ce n'est pas le cas. Il y a un petit texte très intéressant à lire là-dessus de Camille Emmanuel, qui est une autrice qui avait l'habitude d'écrire pour ses éditeurs. Elle a écrit un petit livre qui s'appelle Lettre à celle qui lit mes romances érotique et qui devrait arrêter tout de suite, où elle explique que ces livres-là sont fabriqués pour être vendus et donc que les auteurs ne sont pas libres de raconter ce qu'ils veulent. Or, la meilleure littérature érotique, c'est celle qui puise vraiment dans les fantasmes personnels de l'auteur et même s'ils sont hors des normes, hors de ce qu'on a l'habitude de voir, vont vraiment aller chercher dans ses désirs profonds et mettre en résonance les désirs profonds du lecteur ou le dégoût profond. Mais dans les deux cas, ça crée une réaction et c'est à partir de cette réaction-là que on va pouvoir construire en toute conscience, on va dire, sa sexualité.
D'ailleurs, on va continuer sur les auteurs avec une question un peu provocatrice. Est-ce que les auteurs et les autrices de littérature érotique sont-ils et sont-elles tous des obsédés?
Alors, j'aime beaucoup cette question pour deux raisons. Alors, premièrement, c'est que oui, c'est évident qu'en tout cas, il y a quelque chose chez eux qui les intéresse profondément dans la sexualité, dans le sexe, et qui vont aller vraiment gratter pour essayer de ressortir ça. Il y a aussi une vraie audace de publier ces choses-là, parce que c'est quelque chose qui touche vraiment profondément à son intimité. Donc pour moi, ils sont au moins obsédés de quelque chose. Alors de quoi ça leur appartient? Mais en revanche, ce qui est très intéressant dans cette question, c'est que les lecteurs, donc nous, les lecteurs de littérature érotique, on veut absolument que tout ce qui soit raconté soit vrai. C'est-à-dire que même si c'est faux, notre inconscient, ou je ne sais pas quelle force en nous, nous fait croire que tout ce qui est écrit est vrai et que donc l'auteur a vraiment vécu tout ce qu'il raconte, fait l'expérience de toutes les étapes qu'il met en scène. Or, évidemment, ça peut être le cas, mais ça peut aussi être parfaitement faux. Il y a des auteurs de littérature érotique qui écrivent des textes très excitants, mais qui n'ont jamais rien vécu de leur vie. Et à l'inverse, il y a des auteurs de littérature érotique qui écrivent leurs souvenirs au détail près. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est que nous, en tant que lecteurs, même si on sait, comme quand on va au cinéma, que c'est faux, pendant la lecture, on a la farouche impression et le farouche désir que ce soit vrai. Et c'est pour ça qu'on a tendance à croire que les auteurs ont vécu ce qu'ils écrivent. Ce qui crée d'ailleurs parfois des problèmes parce que, il est arrivé, même malheureusement assez souvent, que des auteurs de littérature érotique et plutôt des autrices d'ailleurs soient harcelés sur la base de ce qu'elles ont écrit parce que elles sont vues comme des femmes bon, ou des hommes parfois qui sont faciles à obtenir et qui sont donc voilà, obsédés et que bon.
Vous parliez de Camille Emmanuel, je parlais juste un peu avant de Fleur Chérie, mais comme tant d'autres autrices, ce sont des pseudos.
Oui, c'est
Ouais.
d'ailleurs souvent le cas. La première autrice, si on parle vraiment des femmes, la première autrice qui a publié de la littérature érotique sous son vrai nom, pas sous un pseudo, c'est Anaïs Nin, qui a écrit dans les années 30, mais qui a publié sous son vrai nom dans les années 70, dans les années 70, pardon.
Et vive la Belgique.
Voilà.
Anaïs Nin, que vous pouvez aussi retrouver en livre, mais aussi il y a une série, je ne sais plus sur quelle plateforme, dont le nom est Little Birds, et qui est
Oui,
adaptée des écrits
c'est ça.
d'Anaïs Nin. Quand on ne connaît pas la littérature érotique, quels ouvrages pourriez-vous conseiller pour débuter dans la littérature érotique?
Alors, c'est un peu une question piège, car évidemment, je ne pourrais pas recommander un livre qui puisse convenir à tout le monde, puisqu'on sait de ça dont on vient de parler. En revanche, ce que je peux conseiller aux gens qui voudraient s'y intéresser, c'est vraiment d'aller faire un tour dans les librairies qui ont des rayons, mais de demander des choses, justement, d'oublier les grands éditeurs qui publient énormément tout ce qui est After, New Romance, etc., et de vraiment s'intéresser aux auteurs historiques qui ont passé le test du temps, on va dire. Apollinaire a beaucoup écrit, Anaïs Nin, Oscar Wilde a aussi écrit un livre érotique homosexuel. En fait, la chose que je pousserais à faire aux lecteurs, c'est d'être curieux. Et de ne pas avoir peur de demander à un libraire, parce que les libraires ne vont pas être rebutés par cette demande. C'est pas une littérature qui est aussi secrète qu'on peut le penser. C'est vraiment une littérature qui, historiquement, a une force dans l'histoire de la littérature générale. Et donc, il y a vraiment de quoi trouver son bonheur. Je peux rappeler qu'il y a la littérature, mais qu'il y a aussi quelques textes, pas beaucoup, de philosophie qui parlent de l'érotisme et que c'est tout aussi important ou intéressant pour soi-même de les lire parce que ce sont des auteurs et autrices qui souvent se sont mis en tête de démêler les problèmes qui sont présents dans le monde sociétal autour des questions de sexualité et ça fait un petit peu, disons, un pré-ménage dans nos esprits un peu parfois confus par tout ce qu'on nous dit sur la sexualité et tout ce qu'on on essaye de nous faire avaler comme norme et comme injonction. En philosophie, il y a beaucoup de linguistes qui se sont intéressés au sujet car la sexualité, c'est d'abord une histoire de langage et de nommer les choses. Je conseille souvent aux gens de lire les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes qui, même si ça ne parle pas directement de sexualité, parle de relations amoureuses. Et c'est très important aussi de s'intéresser à cet aspect-là. Aussi, le phénomène érotique de Jean-Luc Marion explique assez bien ce qui se passe quand on est érotisé au niveau purement intellectuel, mais c'est très très intéressant. Et Belinda Cannon, qui est mon autrice phare, que je cite beaucoup dans mon essai, qui a écrit « Petit éloge du désir » chez Folio, et aussi un autre livre très intéressant qui s'appelle « L'écriture du désir ».
Merci d'avoir écouté cet épisode de Tout s'explique, un podcast d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner aussi à ce podcast sur les plateformes d'écoute en ligne ou votre appli comme Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc., etc. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme Zone Mixte ou 6ème Science.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.